Et puis après, il y a,
des options.
Il y a d'autres possibilités.
Tout est possible au niveau d'une commune. La commune, elle a les compétences générales. Mmh. Autant un département, il va avoir des zones restreintes aux compétences.
C'est selon la politique que tu veux mener.
Ce que je veux dire, c'est dans le cadre de la loi, ça aurait été le minimum, si la loi était bien faite pour les fusions de communes, le minimum aurait été qu'il y ait une commission communale qui intègre tous les habitants qui voulaient bien réfléchir. Ça aurait été le minimum. Là où ils ont biaisé pour mettre une apparence, c'est qu'ils avaient créé un truc qu'on a découvert, un comité de pilotage.
Oui.
Un comité de pilotage, moi j'ai jamais vu un comité de pilotage qui en 6 mois donne un rendu. C'était complètement pipeau. Dans un comité de pilotage, on y intègre tous les représentants de toutes les associations concernées par le sujet.
C'était un comité technique, c'était pas un comité de pilotage.
Mais c'était présenté comme un comité de pilotage, tout leur truc. Mais en fait, c'était juste les impôts et les machins.
Donc, ouais, c'était les administrations.
Voilà. Mais bon, juste pour finir, la commission communale, ça me paraît être vraiment le minimum et le plus intéressant, le plus adapté.
Oui. Sous réserve que ces commissions vont venir après, soient peut-être organisées d'une autre manière. Qu'elles ne restent pas un petit concile entre élus qui réfléchissent uniquement sur les problèmes de la commune.
Je veux dire, se passer des compétences techniques ou intellectuelles des habitants qui sont sur ta commune. C'est une aberrance. C'est une aberrance. On a des habitants sur la commune, s'ils ont des compétences, autant les utiliser. Moi, j'ai été maire pendant 3 mandats. Bien souvent, les projets, on ne savait pas où on était. Quoi. Si on n'avait pas eu des appuis administratifs ou autres, on ne s'en sortait pas. Donc, voilà. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de commission communale, tout ça. Maintenant, c'est un peu l'ordre du jour. Donc, pourquoi s'en priver?
Bon, je vais continuer un petit peu, si vous voulez bien.
Donc là, je vais aborder ce que j'ai appelé les principes, en fait. C'est-à-dire que les questions de démocratie sont toujours très compliquées à expliquer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut leur donner des termes, des approfondissements variés et multiples, qui fait qu'après, on ne sait plus trop de quoi on parle. Et c'est des portes ouvertes aussi à des incompréhensions ou bien des mauvaises orientations, et puis on appelle les choses qui ne correspondent pas à ce qu'elles sont, effectivement. Moi, je ferai un premier point, ce serait de reprendre certains mots importants dans la démocratie représentative. Déjà, on peut dire qu'elle s'oppose à un certain nombre d'autres démocraties. La démocratie représentative, évidemment, puisque la démocratie représentative est censée être gérée indirectement par la population qui élit des administrateurs ou des élus qui eux-mêmes gèrent à la place et qui ont la délégation de la population pour gérer les affaires. C'est le principe de la représentation. La démocratie directe, évidemment, ça c'est encore autre chose. C'est une démocratie qui s'abstrait complètement d'un corpus politique ou d'un corpus de représentants et qui gère en direct les affaires. C'est-à-dire que tout passe par une décision collective à différents niveaux, bien sûr, pas forcément à un niveau étatique, hein, et qui permet non seulement à la population de faire les propositions directement, mais aussi de les voter, de faire les évaluations, de suivre les projets, etc., avec l'appui éventuellement de d'autres choses. Ce qu'on pourrait peut-être dire pour la démocratie participative, c'est qu'en fait, elle reprend évidemment des choses des 2 ou 3 autres options, mais qu'elle se lie d'une manière obligatoire à l'implication citoyenne elle-même dans le processus, dans les processus, quels qu'ils soient. Et en fait, cette implication, elle commence par l'information, l'information aux gens, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme information pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se positionner éventuellement. Il y a le niveau suivant qui est la consultation. Ce n'est plus de l'information. La consultation, c'est informer, bien sûr, mais aller plus directement devant les gens pour leur présenter les choses et leur demander ce qu'ils en pensent. Mais ça s'arrête strictement là. C'est-à-dire que ça ne débouche sur rien d'autre, à savoir qu'on recueille l'avis des gens en ne s'occupant absolument pas de ce que ça peut impliquer après pour les gens qui demandent cet avis. Et le troisième niveau, c'est ce que j'appellerais la concertation, au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre les gens autour d'une table et se concerter sur un sujet
et faire déboucher, faire évoluer une réflexion, faire évoluer des opinions, de façon à ce que le sujet qui soit traité puisse retrouver l'agrément d'un certain nombre de gens, même si ça doit se faire par étapes et plusieurs fois pour qu'on aboutisse finalement non pas nécessairement à un consensus, mais en tout cas, parce que le consensus est impossible enfin, dans certaines choses, mais en tout cas reconnaître la diversité des opinions des gens qui participent à la concertation et pouvoir exploiter cette diversité comme un plus pour améliorer la prise de décision. Donc ces trois niveaux, hein, je pense que les trois niveaux importants, information, consultation et concertation. D'ailleurs, je vous signale que, à titre d'exemple, la concertation est utilisée de façon erronée par les élus. Ce qu'ils appellent concertation, c'est absolument pas de la concertation. C'était le cas notamment des tables de ce qu'avait indiqué, de ce qui est indiqué dans la charte de la nouvelle commune, sur la charte qui a été votée en septembre par les deux communes, comme quoi. Il y a eu concertation quand ils ont fait les fameuses tables rondes, les six débats publics. Là, il n'y a pas eu de concertation, il y a eu un recueil d'avis.
C'était des réunions d'information, c'était pas des débats.
C'était plus que ça. C'est présenté comme une concertation avec les habitants.
Mais vous avez assisté à celle d'Arbaïès.
Moi, j'étais à La Rouvière, on n'a pas demandé mon avis à aucun moment. Les quelques questions qui ont été posées ont été.
Oui,
évoluées.
Oui.
Quand c'est devenu un peu dangereux, ils ont envoyé tout le monde sur l'apéro.
Oui, absolument.
Non, mais c'est comme ça que ça s'est fini.
À Valorant, tu as dit bien. C'était pas forcément mieux non plus.
Ils ont quand même empêché Vidal a empêché Yves Durand de parler quand même. Mmh. Bon, ici, à Moros, il s'est fait. Daniel s'est fait.
Black Boulet.
En plus, c'était idiot. Tous ceux qui avaient quelque chose à dire, on était tous en même coin.
Oui.
Les yeux. Mais bon, voilà, non, je veux dire qu'il n'y a pas eu de débat, c'était compliqué, puis tu sais, ils sont tellement là, sûrs de leur truc, après.
Quand le débat était lancé un petit peu, ils ont été.
Ben, c'est ça, quoi. Ils ont dit qu'on était à Daniel, qu'il était hors sujet, que c'était pas là qu'il fallait en parler. Bon, ben bref, ben, au revoir. Bon, c'est vrai, il y a eu une présentation du projet.
Mmh. Une formation, oui,
sûr.
Une présentation du projet.
C'était de la formation.
Voilà.
C'est tout sur ce retard.
Pour continuer sur ce plan des principes, donc il y a deux aspects importants. C'est que le premier aspect, c'est évidemment la légitimité de la décision, la légitimité de ce que font les élus ou la légitimité d'un autre système. Donc quand on parle de démocratie participative pour une commune, il s'agit en fait d'instaurer une nouvelle légitimité qui est différente de celle qu'on a connue jusqu'à maintenant, notamment qui implique des habitants qui sont concernés par les problèmes. C'est pas forcément tout le monde, évidemment. Le deuxième plan important dans les principes, c'est que à cette légitimité se greffe en fait la responsabilité des gens. Parce que à partir du moment où les gens sont impliqués, ils deviennent de facto responsables aussi avec les élus ou avec des cabinets d'études éventuellement ou d'autres personnes qui participent, qui sont dans le processus de démocratie participative. Donc en fait, il y a trois niveaux qui seraient importants de mettre en place par rapport à ces principes. C'est d'une part adopter un cadre d'action, un cadre tout à fait transparent pour l'action de gestion et de gouvernance d'une commune. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle la charte en général. Il y a le fait de prendre des positions, je dirais, fortes en tant que respect des valeurs et de la diversité des besoins et des compétences dans une commune qui permettent de mobiliser tout le monde. Promouvoir aussi la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi ? Ben, c'est justement pouvoir s'impliquer dans des expériences, pouvoir s'impliquer dans des prises de décision, pouvoir s'impliquer dans la parole, pouvoir faire œuvre de mobilisation auprès des autres personnes dans le village, etc. Enfin, c'est la citoyenneté, c'est s'impliquer, en fait, il n'y a pas d'autre terme. Et puis, enfin, le quatrième point sur le principe, c'est de modifier le système fonctionnel actuel du conseil municipal. C'est évidemment pas le seul, mais c'est un point important, sachant qu'effectivement, comme le dit Rémi, le cadre existe, mais on peut très bien innover. Hein. Rien n'empêche d'apporter des solutions différentes ou d'influer un peu sur certains aspects, dans un sens ou dans l'autre. Mais ça, évidemment, c'est à la discrétion des élus qui seront élus. Voilà, ça, c'est donc j'ai fini sur ce plan des principes et on va voir ensuite qu'est-ce que ça peut poser comme problème d'instaurer ces principes très généraux, mais on va voir comment après pratiquement on peut les mettre en œuvre. Mais qu'est-ce que ça peut poser comme problème? On va les lister un petit peu. Vous voulez refaire un petit tour de table ou réagir?
Non,
c'est bon. Alors, les interrogations qu'on peut se poser par rapport à ces grands principes, il y en a une qui est majeure, je dirais, c'est la disponibilité des habitants. Ça veut dire de quelle façon, si on veut que la démocratie participative fonctionne, il faut que les gens, évidemment, soient présents quand on met en place de nouvelles instances. Il faut qu'ils s'engagent, il ne s'agit pas seulement d'être là, donc s'engager pour pouvoir participer effectivement, et puis avoir un minimum de formation ou d'information pour que la parole, elle s'exprime, mais aussi et qu'elle soit pertinente par rapport à un sujet qui sera débattu. Ce qui pose effectivement des problèmes d'un peu de ce qu'on dit les prérequis, mais bon, ça c'est essentiellement des questions de formation préalable pour pouvoir rehausser le niveau d'information et le niveau de capacité des gens. Dans la même difficulté, c'est aussi les processus eux-mêmes qui sont allongés par la démocratie participative. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler quelque chose de façon aussi rapide que le maire dans sa cuisine qui peut régler le problème en un coup de cuillère à peau. Ce qui peut poser certains problèmes de gestion technique des dossiers, etc. Et puis, un autre problème qui peut être important, c'est une exclusion qui risque d'arriver au fur et à mesure du développement de la participation dans un village. C'est l'exclusion, justement, de tous les gens qui sont à la marge en termes de capacité ou en termes de savoir ou en termes de langage ou en termes d'implication et qui ne se sentent pas de participer puisque, d'une part, on ne va pas forcément les chercher puisqu'il y en aura d'autres qui vont faire ça. Et on n'aura pas derrière la volonté de former ou de pouvoir... Donc ça, ce sont quand même des freins importants. Deuxième difficulté, ça concerne plus spécifiquement les élus. Comment les élus peuvent recevoir la démocratie participative? Évidemment, pour eux, c'est un peu une contestation de leur pouvoir, de leur liberté, de leur autonomie. Ce qu'on peut dire, c'est que si... ils peuvent comprendre que la démocratie participative est en mesure de valoriser leurs fonctions, et je crois que ça peut être le cas, à ce moment-là, effectivement, ils peuvent adhérer au système, enfin, au système qu'ils mettraient en place avec d'autres, et donc ils peuvent être moteurs. Il faut que les élus soient moteurs. S'ils sont pas, enfin, moteur ne veut pas dire qu'ils pilotent complètement l'affaire, mais qu'ils soient engagés au titre comme n'importe quel citoyen dans le système. Donc il y aurait un peu trois... Par rapport à ça, il y aurait, je dirais, trois façons de le régler par rapport à l'inclusion des seuls citoyens éclairés ou l'exclusion de ceux qui ne sont pas éclairés, entre guillemets. Il faudrait établir une sorte de renouvellement des gens qui participent et non pas se baser uniquement sur un comité restreint, en quelque sorte, de gens qui soient toujours là, toujours présents et que les autres, tant pis pour eux. Donc les renouveler, ça permet d'éviter la lassitude à terme, parce qu'évidemment c'est long, ça se renouvelle, les délais, etc. Il faut que les gens s'impliquent et que ça dure sur la durée des projets, etc. Ceci dit, on peut aussi prévoir que la démocratie participative et donc la gestion de projets, de l'implication, se fasse à différents niveaux. Elle n'est pas forcément d'un bout à l'autre, sur l'ensemble d'un processus par exemple. Par exemple, si on doit décider qu'une route doit passer et qu'elle va traverser 10 propriétés et qu'en même temps, il va falloir refaire un mur à tel endroit, etc., il peut y avoir différents niveaux d'implication. Ça peut être un niveau préliminaire de réflexion, ça peut être un niveau de commencer à donner des idées pour savoir comment régler tel et tel problème, et ainsi de suite. Hein. C'est pas forcément tout embrasser d'un coup pour que la personne va se sentir démunie si elle doit participer à tout pour tout faire. Le deuxième point, c'est de faire une participation qui soit relativement bien cadrée tout au moins. Donc justement, de ne pas tout vouloir brasser, mais s'enfermer au moins au départ sur certaines choses, relativement plus faciles au début, pour pouvoir les gérer de façon et arriver à mettre en... comment dire... à comprendre les problèmes qui se posent pour les gens de participer au fur et à mesure de, des projets qui seront développés. C'est-à-dire se limiter dans un premier temps à quelques sujets d'intérêt communal globaux qui comportent, je dirais, des implications pour tout le monde potentiellement, et en même temps pouvoir ne réfléchir qu'à certains aspects des choses. Enfin bon, tout ça, c'est évidemment, c'est, on ne peut pas parler dans le vide comme ça, c'est vraiment des grandes options possibles. Et puis enfin, pour participer sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, il faut que les gens, non seulement soient sollicités, mais qu'en plus, ils puissent répondre. Donc il faut assurer une formation derrière qui permette, il faut qu'il y ait une assistance en termes de planification, de la participation, pour que cette participation devienne peu à peu de plus en plus performante. Et on ne peut pas l'instaurer de but en blanc, ça ne pourra jamais se faire de but en blanc. Les principes, oui, mais en pratique, comment la mettre en œuvre, quel type de collectivité former pour résoudre tel et tel problème, etc. Donc vous voyez, c'est... Bon, c'est... toute chose, évidemment, peut s'étudier, peut se régler, mais il faut être conscient des difficultés que ça va occasionner, et rien n'est nécessairement facile que de confier son pouvoir à un élu qui, lui, va résoudre, ou s'efforcera de résoudre grossièrement tous les problèmes. Après, je passerai aux propositions pratiques. Vous voulez dire quelque chose là-dessus ?
Là, ce que tu disais par rapport à l'implication des gens, bon, c'est vrai qu'il faut que ce soit progressif. Enfin, il y a certaines choses un certain nombre de problèmes techniques à régler, hein, pour vous aider. Après, de toute façon, actuellement, il y a un désamour de la politique globalement dû au système représentatif, et l'abstention, comme tu disais, c'est un symptôme. À partir du moment où on est confiant dans le fait que notre implication politique peut avoir une influence sur notre vie quotidienne, on est tout de suite beaucoup plus intéressé à aller voter. Et je pense que, alors il faut le temps que ça se mette en place et que ça rentre vraiment profondément dans les esprits, mais je pense que l'implication, elle gagne en qualité au fur et à mesure qu'on se rend compte que oui, on a un pouvoir de décision. Oui, oui. Ensuite, l'intérêt dépend effectivement des sujets. Il y a des sujets qui vont préoccuper ou impacter directement certaines personnes qui seront nécessairement plus impliquées que d'autres, que ce soit pour des raisons géographiques, pour des questions de secteur d'activité ou pour ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a quand même des mécanismes de régulation naturelle. Je pense qu'on serait approprié à la chose publique si réellement on a le sentiment que ça influe, quoi.
Que ça fait sens.
Même entre amis, si je ne peux pas parler dans la conversation, bah, je quitte la soirée, quoi. Enfin, c'est
bien sûr.
Voilà, je veux dire. Ouais. Régulièrement. Et bon, donc ça, c'est une première chose. Et pour ce qui concerne les élus, de toute façon, il ne s'agit vraisemblablement pas de faire un putsch non plus. Donc ça ne peut se faire qu'en accord avec les élus, qui seront de fait tenus d'accepter les nouvelles règles du jeu. Sinon, c'est à l'échec d'entrée. Enfin, si on est encore sur l'ancien système, c'est-à-dire on vous élit, vous avez le blanc-seing pendant 5 ans, puis nous, on a une super idée. Vous n'êtes pas en tenir compte, mais pourquoi ? Enfin voilà, donc, il faut forcément que les élus soient d'accord avec cette nouvelle règle du jeu. Enfin voilà, je pense qu'il faut que ce soit en accord avec les élus, évidemment, quoi. Et c'est pas une dépossession, de toute façon, enfin, si les mecs se sentent dépossédés de leur pouvoir, c'est qu'il y a quand même un problème.
Oui, ça,
c'est
ça.
L'élu n'est qu'un prestataire de service. Hein. Après, il faut effectivement une certaine forme d'expertise sur un certain nombre de sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut une capacité de rassemblement, d'être capable de solliciter des savoir-faire et des avis. Et ça, effectivement, c'est le rôle de l'élu, qui est un peu un chef d'orchestre, hein, sur la commune à l'échelle du territoire, hein, de mettre en synergie et en relation des compétences. Mais si l'élu, à la base, est opposé au principe, ça ne peut pas marcher. Ça,
il faut qu'il y ait la volonté.
Moi, si je parle de l'expérience de l'association de la PAD Ardaliès, au début, l'élu, parce que c'est aux nouvelles élections, ça s'est fait, et on travaille plus sur Ardaliès, hein.
Oui.
non, mais bon. Et voilà, avec des propositions de chemin, de bancs à tel endroit, c'est vraiment dans la sauce, elle travaille dans un but de mieux-être des habitants du hameau. Hein. Mmh. Et bien au début, la mairie de Valrogue, elle a cru, comme tu dis, qu'elle était dépossédée de son... Mmh. Et c'était très agressif.
Oui, mais là on est vraiment sur deux conceptions de
ce que je veux dire, en fait, c'est que, bon, tu auras 2 ans après, 3. Les choses ont évolué quand même.
D'accord.
Ils ont enfin compris, ou je dis ils, que c'était pas un ennemi, quoi.
Ouais.
Mais ça a été long, hein, ça a été dur. Hein.
Ouais.
Et maintenant, bon, quand la sauce a besoin de prendre rendez-vous avec le maire, on y va, il y va. Pour moi, c'est plutôt chill parce que j'ai... Voilà, mais je veux dire qu'au bout de ces années-là, la situation peut changer quand même. Il y a un côté qu'il faut noter, quoi. On n'est plus comme des voleurs.
Oui, non, mais, c'est ça, oui, des voleurs, ou des enfants rebelles, ou quelque chose.
La force d'opposition, en fait.
C'est sur des propositions de mieux vivre. Hein.
Vous êtes perçu comme une force d'opposition.
Plus que chose. C'est pas ça, la démocratie quotidienne, en fait.
C'est de la politique de la ville, quoi, du hameau. C'est pas... compliqué quand même. Hein.
La démocratie participative est tributaire, comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, de la volonté des élus, mais également de la volonté des citoyens de s'engager. Ah, et à mon avis, c'est une amélioration conséquence de la gouvernance communale qu'on peut améliorer de façon très positive. Hein. Voilà, la représentativité, c'est 15 élus qui décident pour les citoyens, on l'a bien vu. Donc là, c'est un sujet, à mon avis, qui dans les années à venir, si éventuellement il y avait une liste qui se constituait et qui fasse basculer la municipalité actuelle, ce sont des sujets qu'il faudrait aborder avec les citoyens et mettre en place progressivement, bien expliquer la chose auprès des citoyens, mais à mon avis, ce serait une amélioration conséquente de la gouvernance communale. Ouais. Qui ne se fait pas malheureusement au niveau national.
Et potentiellement, elle peut changer. Hein, oui.
Qui se fait dans certains endroits, mais bon, généralement, ne se fait pas. Voilà, donc c'est
des réflexions, c'est du travail.
C'est une gestion nouvelle. Qui, à mon avis, va dans le bon sens. Personnellement, je pense comme ça. Hein, voilà.
Ce que je trouve inquiétant, c'est que vous ayez été obligé de vous mettre en association pour pouvoir faire des propositions. En fait,
C'est un peu ce qui est décrit là. Après, c'est pas la formule.
C'est juste que vous étiez au niveau du village à avoir des positions.
Des idées.
Ouais, pas forcément des revendications, mais des idées, tout simplement.
Des idées, pas des revendications.
Et pour pouvoir les faire passer au niveau communal, il a fallu vous organiser en association pour pouvoir établir quelque part un rapport de force.
C'est un rapport de force,
Et en fait, ce que je comprends de ce que tu nous as exposé, c'est qu'il faut surtout, il ne faut pas en arriver là. Si les choses se passent normalement, c'est aux élus, au conseil municipal, à être aussi à l'écoute de ce que les citoyens ont à proposer pour le bien commun de la commune ou des parties de commune.
Et tout ça, ça part à partir de l'information. Si les habitants ne sont pas informés, donc ce qu'il disait tout à l'heure, l'information régulière de la population, des projets qui se mettent en place, etc., il faut qu'il soit fait régulièrement aussi. De façon à ce que les gens puissent se manifester et s'intégrer dans ces projets pour participer à l'élaboration d'un projet ou autre.
Hein, voilà. Mais là, c'est le contraire. C'est les habitants d'Ariès qui avaient des propositions à faire.
Je pense que c'est quand même les élus qui doivent avoir un lien avec la population.
Voilà, après, c'est par amour pour mieux vivre dans ton coin. Hein. C'est des choses tout à fait...
C'est un peu le rôle aussi.
C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a quand même
un rôle aussi. C'est un peu le rôle aussi. Moi, j'aimerais donc... un peu le rôle des conseils municipaux, je suis désolé, les conseils municipaux sont élus, sont représentatifs, donc ils devraient se mettre à l'écoute des populations qui les ont élus.
C'est une façon d'appuyer
dans chaque secteur, donc tout ça, ça ne se fait pas, donc ça se fait très peu. Donc tout ça, c'est des choses à inventer qui pourraient, à mon avis, améliorer la gestion d'une commune.
Faire bouger les choses comme ça. Hein oui, petit à petit, il faut faire bouger, avancer.
Mais bon, ça, c'est sûr que c'est un processus qui va demander du temps. Et à mon avis, c'est un processus positif qu'il faut engager dans le futur. Et voilà, moi, je le vois comme ça. On restera sur le même principe.
Peut-être quand même.
La représentativité, ça.
Et des décisions abruptes de prise.
Oui, voilà, voilà.
Mais je pense que quand même, les prochaines municipales, c'est un peu le moment où jamais, je dirais, de faire valoir ce type de thématique dans la gestion d'une commune et non pas attendre que les élections désignent les maires et qu'après coup on se décide à se dire ah oui mais si on veut que ça change il faudrait monter une assoce ou il faudrait faire ça et faire pression sur le maire pour que ça fonctionne et instaurer une démocratie participative après coup. Je pense que c'est compliqué et ça va être plus que compliqué.
Si tu rates la date anniversaire,
si tu rates la date,
c'est pas plus que ça.
Oui.
Bon, ça c'est la volonté de la liste qui veut se constituer. En fait,
Mais vous êtes là un peu pour ça, non?
Pas nous plus que vous.
Ah non, c'est beaucoup donné.
Bon, je vais vous lister.
J'ai quand même des sujets qui
t'intéressent en tant que citoyen.
Que les concitoyens, moi, seraient. Sont demandeurs. Je demande de choses comme ça, à mon point de vue. Les gens, ils aspirent à ces choses-là. On le voit dans les élections nationales, bon, ici dans les municipales, bon, les abstentions ne sont pas énormes, mais à certains niveaux, il y a des abstentions records. C'est incroyable que les gens s'investissent pas plus dans la vie communale, régionale, ou voilà, nous on est sur le terrain communal, donc autant se faire que peu, essayons d'attirer les populations dans la gestion de la commune.
Non, mais actuellement on est dans un cercle vicieux qui fait que les gens se démobilisent. Voilà, c'est le cercle vicieux. Pourquoi les gens y restent mobilisés?
Aucun.
Tant qu'il n'y a pas des garde-fous.
C'est
pour ça qu'il faut qu'il y ait des garde-fous dans le système. Et actuellement, il n'y en a pas.
Comme tu disais en introduction, un peu, c'est vrai, je pense que. Enfin voilà, Jérôme a été réélu sur un principe de base qui semblait être une forme de stabilité, quoi. Effectivement, c'est un voisin et on peut aller voir en botte dans ses champs, quoi. Mais finalement, bah non, bah, bien vu que non, ça marche pas. Que quand ils décident eux de s'approprier le code et de jouer les règles, bah nous on est hors tout.
Absolument.
Ouais. Ça c'est une question de personne aussi.
Oui. Voilà. Mais le problème c'est que ça.
Non, mais il faudrait pas que ce soit des questions de personne.
Il faut
justement qu'il y ait des garde-fous pour que les problèmes de personne ne soient plus aussi apparents qu'avant.
Moi je me demandais dans les précédentes élections municipales, que ce soit à Valrhoc ou Notre-Dame, il y avait parfois deux listes ou il y a toujours eu une liste?
Nous, à Valrhoc, il y avait deux listes.
Donc il y avait une opposition.
Oui.
Parce que, et pas à Notre-Dame.
Il y en a eu plusieurs.
Toujours, je crois que c'est la dernière fois, c'était la seule fois qu'il y a eu deux listes entières.
Il y avait plus de cavaliers, il y avait deux listes.
Il y avait des bouts de liste.
Non, parce qu'on ne pouvait pas nacher.
Ah ben non, on ne peut plus pas nacher.
Il faut une liste complète, et puis, à mon avis, c'est...
Oui, mais avant, sur la commune, notamment,
c'est 1000 habitants, je crois.
C'est ça, 1000 habitants. À partir de 1000 habitants, on ne peut plus pas nacher, je crois.
Sur la commune de la Rouvière, avant les élections municipales, vous pouvez vous présenter seul.
1000.
Ah non, là, vous...
Oui, vous présentez seul, vous n'avez pas besoin d'avoir une liste complète. Vous vous présentez seul, si vous aviez la majorité, vous sortiez. Voilà. Alors que là, c'est une liste entière. Bon, sur la Rouvière, il y a eu deux listes en 83 et deux en 89. Et après, bon, il n'y a plus qu'une seule liste qui se présentait. Voilà. Donc en 83, donc, moi j'ai participé à la liste adverse du maire sortant. Donc là, on a eu une élue sur notre liste qui est sorti, puis en 89, ça a été l'inverse, on a eu 10 élus et un élu de l'opposition. Voilà. Mais sinon, précédemment, moi, dans mes souvenirs que j'ai, bon, sur Notre-Dame-la-Rouvière, il y a eu, par les années passées avant 83, il y avait eu des gens qui s'étaient présentés, mais en candidat libre, ou à 2, 3 ou 4, voilà. Oui, donc vis-à-vis d'une liste entière qui se présentait, c'est sûr qu'ils n'avaient pas énormément de chance. Et voilà.
Oui, mais ça crée quand même... Hein, un peu de rapport de force, oui, d'opposition, ouais, qui permet aussi justement de créer un débat, parce que moi je me dis comment on introduit ça
Il faut monter une liste, il y a pas 50
voilà,
manières.
C'est ça. Parce que vous disiez convaincre les élus d'aller dans ce sens-là, mais des élus qui actuellement n'ont pas d'opposition et savent que de toute façon ils peuvent reconduire la même liste pour les 5 années à venir. Ah. Et que visiblement ils n'ont pas tellement d'intérêt à ce qu'il y ait une démocratie participative. Comment les convaincre de...
Je pense qu'ils seront convaincus s'ils sont battus, et puis c'est tout. Il n'y a pas 50 manières.
Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut poser dès le départ.
Qu'est-ce que tu as dit?
Je veux dire, s'il n'y a qu'une liste, par exemple l'année prochaine, s'il n'y a qu'une liste la mairie actuelle ne tient pas à ce qu'il y ait une démocratie participative. Enfin, on le voit avec ce qui s'est passé avec la fusion. Comment introduire ces idées-là? Comment les... comment les faire consentir à aller vers cette orientation-là.
Moi, je crois.
D'accord, non, mais moi, c'est la première réunion où je viens, donc est-ce que c'est un peu le prérequis pour commencer à engager ces
listes? D'où l'intérêt d'avoir une seconde liste, puisque au niveau de la proportionnelle, donc vous allez avoir deux listes, donc obligatoirement une liste qui va avoir la majorité. Donc elle aura systématiquement 50% des élus. Mmh. Après, les 50%, ils font une règle de 3 par rapport au nombre de pourcentage de voix que vous avez eu aux élections. Par exemple, si vous avez eu 60-40, il reste 7 conseillers, on va prendre 7 fois 88, il y aura 3 élus de la liste d'opposition qui sera battue. Et le reste, ce sera la liste qui sera sortante. Voilà comment ça se passe. Donc, obligatoirement, dans le nouveau conseil municipal, s'il y a deux listes, vous allez avoir obligatoirement des élus d'opposition et des élus de liste sortante. Donc, c'est là où on peut, s'il y a une seconde liste, si jamais la liste qui serait présentée par les gens qui veulent s'opposer, sortent minoritaires, bon, ils peuvent au niveau du conseil municipal essayer de faire avancer les projets qu'ils ont développés dans leur projet électoral, hein, voilà. Et vice versa, s'ils sont majoritaires, à ce moment-là, ils auront plus de force pour mettre en place le projet électoral qu'ils auront présenté aux habitants, voilà.
Donc, voilà un peu là. Hein, il y avait deux listes, oui. On était à 15. Ouais. 15 élus, puisque 1000 et quelques habitants. Ouais. Et ben, il y en a 12 de la majorité et 3 de la liste d'opposition. On peut dire opposition.
Voilà. Donc, il y aura toujours une voix de l'opposition. Voilà.
Oui, mais ça, c'est clair que ce système de répartition, ça bloque tout.
Ça bloque tout.
Je veux dire, la minorité n'a plus aucune possibilité de faire valoir quelque chose comme ça. C'est des projets qui sont systématiquement balayés.
C'est juste un droit de regard de l'opposition, voilà, pour bloquer des trucs qui sont complètement farfelus.
Et encore.
Mais donc, être toujours dans l'opposition et pas dans la constitution.
Ils sont obligés de voter, il y a un votant. Et donc, l'opposition.
À la limite, des fois, quand même, il y a des choses qui font consensus, heureusement, quand même.
Oui, c'est ça.
Mais peut-être qu'avec l'opposition, ce qu'on peut appeler l'opposition, ou qui était sur notre liste, bah, ils sont plus à l'écoute d'un électorat qu'ils connaissent, quoi. Qui peuvent un peu, quand même. Ils ont essayé de faire passer le vote, la concertation citoyenne pour la fusion, mais bon, la majorité ne l'a pas retenue, puisqu'ils sont majoritaires. Mais voilà, ils sont porteurs quand même de...
Oui, au moins, ça donne un droit de parole dans le... Oui.
Après, sur l'école, il y a plein de sujets quand même qui réunissent...
Il disait tout à l'heure que le bureau de vote était supprimé sur Adaïès, l'Espérou,
mais oui,
tout
ça. Mais
il n'y en a plus qu'un seul.
Mais je ne sais pas s'il n'y a pas une loi ou un truc comme ça.
Il
faut que je recherche.
Pas sûr.
Voilà, vous allez aller voter à Valrhône, à mon avis.
Il n'y a qu'un seul bureau de vote.
Il y en avait plusieurs.
On aura la
Rouvière. T'es sûr ?
Il y a la Rouvière.
Et le Mazel, alors tant mieux.
Non, parce que le texte du...